Ce son, on le connaît bien. Certains le détestent, d'autres en raffolent. Ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux, les accros du vinyle, à la recherche de pépites ou tout simplement pour se faire plaisir en utilisant un support bien éloigné des plateformes de streaming. Serial Records vous emmène à la découverte de sonorités variées et ça grâce à Vatana, un véritable passionné qui nous accueille dans sa boutique comme à la radio, rue des Halles à La Roche-sur-Yon. Salut Vatana.
Salut Bastien.
On va parler de jazz aujourd'hui. Je sais que tu adores ce style musical et tu as pas mal de choses à nous faire découvrir dans ta boutique, notamment un artiste qui compte beaucoup pour moi. Je t'ai vu un peu comme un enfant en préparant le vinyle après à nous faire écouter. Qu'est-ce qui explique toute cette excitation venant de toi en parlant de cet album, de cet objet qu'on a dans les mains? D'abord, on va commencer par le décrire. Bon, côté pochette, on est sur quelque chose de plutôt classique, hein, quelque chose de simple.
Oui, tout à fait. C'est un graphisme assez simple, une pochette de couleur marron beige texturée, ce qui est pas le plus courant, avec au milieu une photo de Joe Henderson avec son sax ténor, avec un grand ciel bleu derrière lui. Et donc il s'agit bien de Joe Henderson, le saxophoniste, et son album Power to the People. Et pour montrer que le line-up est important, les musiciens qui jouent sur cet album sont indiqués juste à la suite du titre. Et excusez du peu, on a Herbie Hancock au clavier, Jack DeJohnette à la batterie, Ron Carter à la contrebasse et Mike Lawrence à la trompette. Qu'est-ce qu'il y a?
Voilà, alors ça pose l'album déjà. Hein. Voilà, il y a quasiment que des stars hein, derrière les instruments. On va commencer par le principal, hein, c'est Joe Henderson. Qui est-il, pour ceux qui ne le connaissent pas encore?
Alors c'est un saxophoniste américain qui a débuté sa carrière dans les années 60, fin 50 peut-être bien, mais qui est connu pour plusieurs périodes dans son travail. La première période, il était signé sur Blue Note Records et il était plutôt du côté du jazz modal, hard bop, post bop comme on peut dire, et avec une sonorité très suave, assez soul jazz dans le son qu'il pouvait avoir. Des albums cultes hein, qui sont très appréciés avec des graphismes très reconnaissables. Donc ça, c'est la première période de sa carrière où il a été, donc en tant que leader, il a sorti un petit paquet d'albums, mais il a été aussi sideman dans différents groupes, donc accompagnateur pour d'autres musiciens prestigieux. Mais là, on va plutôt se concentrer sur sa carrière solo. Et donc là, c'est un des albums de sa seconde carrière sa seconde période musicale, lorsqu'il a signé sur le label Milestone au milieu des années 60, quoi.
Alors il y a quelque chose aussi hein, qu'on a oublié de dire sur cette pochette, c'est le titre de l'album, Power to the People. Est-ce que je peux y voir aussi quelque chose de militant derrière son jazz, derrière sa façon de jouer, derrière c'est peut-être ses opinions quand il crée cet album?
C'est exactement ça, c'est une posture revendiquée hein, de la part de Joe Henderson. Cet album fait partie de toute une série d'albums afrocentristes. Donc on peut rattacher au travail des Black Panthers par exemple, qui s'inscrit dans le cadre de la lutte pour les droits civiques des Afro-Américains. Et Joe Henderson a fait sa part du job avec toute la série d'albums de cette époque. Là on va retrouver des titres comme Black Narcissus par exemple, Afrocentric, Power to the People, enfin voilà, le programme est clair. On a un homme noir qui est fier de sa musique, qui est fier de sa culture, qui vous regarde à l'arrière de la pochette droit dans les yeux. Le regard masqué par une paire de lunettes de soleil. En gros, il n'est pas là pour vendre des cravates, quoi. Hein.
Clairement. Même si tu parlais Black Panther, tu parlais de tout ça, du Black Power, il y a quand même aussi un artiste blanc hein, parmi l'équipe aussi. Ce n'est pas uniquement un groupe fait d'Afro-Américains.
Si, si, on est sur des Afro-Américains, là. Mike Lawrence.
Mike Lawrence, il est blanc.
Voilà, c'est le moins connu de la clique, quoi. C'est le moins connu de la clique parce que les autres ont tous été frontmen. Après, ouais, ça me permet de faire le pont justement avec, par exemple, Miles Davis, à qui on a pu reprocher quand il a enregistré avec Bill Evans. Mais pourquoi est-ce que tu prends pas un frère dans ton orchestre? Pourquoi est-ce que tu as un blanc dans ton groupe? Qu'est-ce que c'est que ce scandale? Et Miles Davis avait une réponse que je trouvais géniale. J'en ai rien à foutre qu'il soit bleu, vert, rouge. Ce que je veux, c'est le meilleur. Et là, le meilleur, c'est lui.
Et là, les meilleurs, ils sont là hein, dans cet album. Ils sont bien réunis pour cet album exceptionnel, Power to the People. Une production magnifique. On a oublié de donner l'année. On est quoi, en 67, 68
1969 pour cet album. Et c'est des années qui sont un peu pivots dans le jazz, puisqu'on a l'électrification du son qui a commencé quelques années auparavant. Herbie Hancock joue pas du, enfin joue du piano, mais surtout du Fender Rhodes. Et Ron Carter, qui est un des grands contrebassistes, est à la basse électrique. Alors de mémoire, hein, il va pas persister là-dedans, la basse électrique, puisqu'il préfère le son de la contrebasse. Mais voilà, Herbie Hancock là, pour moi, il est au sommet de son art. Hein. Ça doit faire 4-5 ans qu'il joue sur piano électrique et là vraiment, on entend, il est vraiment au sommet de son art et on est sur ce jazz électrique quelques années avant que ça prenne le virage du jazz fusion, du jazz rock, etc. Où on peut retrouver, oui, de Jonette, Herbie Hancock qui se jetteront à plein là-dedans. Mais là, vraiment, on est sur un album militant, afrocentrique au possible, et puis un jazz de qualité qui est vraiment incroyable. Et c'est un album qui est très recherché puisque très dur à trouver. Il y a eu que des éditions américaines et anglaises, pas d'éditions françaises ou italiennes comme souvent il y a eu dans le jazz. Et il y a une réédition qui vient tout juste de sortir. Mais les éditions, il n'y avait pas eu d'édition depuis les années 70 en fait quoi. Donc c'était un album qui jusqu'à il y a peu, si vous vouliez le poser sur la platine, fallait trouver une édition originale. Et puis ben comme pour beaucoup de disques en pressage US, c'est compliqué de les trouver en France. Donc voilà, moi je suis super content de le proposer au magasin dans une édition d'époque. Ça fait vraiment plaisir. Et voilà, ça me permet aussi de faire un clin d'œil à mes maîtres en jazz, mes professeurs, mes amis que j'ai rencontrés quand j'étais étudiant à Tours et qui étaient tous en fac de musicologie. C'est eux qui m'ont fait découvrir cet album à l'époque. Alors évidemment, je connaissais Herbie Hancock, Ron Carter ou de Jonette, etc. Mais moi, je me suis pris ce truc dans la face, quoi. Et franchement, le truc bouge pas, quoi. L'album bouge pas. Pour moi, hein, c'est clairement un des tout meilleurs albums de Joe Henderson. Il y a débat là-dessus, hein, parce que il y a des gens qui préfèrent la période Blue Note. Moi, perso, je préfère cette période sur Milestone. Après, il va se barrer un peu plus dans l'espace, on va dire, hein, puisqu'il a fait notamment des disques avec Alice Coltrane, la veuve de John Coltrane. Mais là, pour moi, il est vraiment au sommet de son art. C'est avant qu'il aille au Japon, puisqu'il a eu une carrière au Japon également dans les années 70. Le mec a un gros son, il sait exactement ce qu'il veut, ça s'entend dans les compositions. L'album est super bien équilibré, puisqu'il y a des grosses ballades ou des morceaux très lents, très, très poétiques, on va dire. Mais là, on va s'écouter un morceau un peu plus énervé, on va écouter le morceau éponyme, où voilà, c'est, le rythme est un peu plus soutenu, il y a une énergie incroyable sur le morceau, et c'est vraiment un des très très bons albums en jazz de l'époque et que bah, du coup on a plaisir à offrir ici dans une édition d'époque.